RJB Info, le journal, Diana Dacosta, bonsoir.
Bonsoir, coup d'envoi de l'Imérial ce soir. Après 2 ans, la manifestation reprend possession des rues de Saint-Imier jusqu'à demain. Son nouveau président, Gaël Lardon, est en direct par téléphone. Il nous parlera de l'ambiance qui règne sur place dans une poignée de secondes. Le nombre de réfugiés qui arrivent en Suisse et dans le canton de Berne commence à diminuer. Le conseil exécutif a présenté la situation actuelle d'accueil et d'intégration cet après-midi. Mais le secrétariat d'État aux migrations met en garde, il pourrait y avoir un nouvel afflux cet automne et le canton s'y prépare. En sport, changement d'identité pour le championnat jurassien de triathlon. Alors que sa 28e édition se déroule demain, le CJT devient les Triathlons Jurassic Series et change également de logo pour rajeunir l'image de l'événement. Météo, le ciel est encore en partie nuageux, mais ça devrait bien se découvrir pendant la soirée et la nuit. Demain, c'est une très belle journée ensoleillée qui nous attend. Le mercure grimpera jusqu'à 28 degrés. De bonnes conditions sont prévues aussi pour dimanche, mais ça risque de se dégrader en deuxième partie de journée. Le départ est donné pour l'Imérial. La fête a été lancée il y a à peine plus d'une heure à Saint-Imier. Cette nouvelle édition est doublement spéciale puisque c'est la première depuis le début de la pandémie de coronavirus. Mais c'est aussi la première pour Gaël Lardon, son nouveau président. Gaël Lardon qui est en direct par téléphone avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez succédé à Christian Hugues qui chapeautait la manifestation depuis 20 ans, plus ou moins. Alors premièrement, au lancement des festivités, comment vous vous sentez ?
Alors maintenant que la fête a commencé, donc de nouveau un peu plus serein. C'est vrai que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, mais dans l'ensemble tout va bien. Le soleil est avec nous, les gens, les rues commencent à se remplir, donc c'est vraiment, ça va bien.
Alors justement, comment est l'ambiance sur place ? Décrivez-nous un petit peu, est-ce qu'il y a, il commence à y avoir du monde ?
Alors oui, les rues se remplissent parce que ben on va avoir le cortège, ça c'est vraiment le point d'orgue qui marque l'ouverture de la fête. Mais en ce moment, les stands se remplissent, la musique commence à s'allumer un peu à gauche, à droite, etc. Donc on est sur la bonne voie pour passer des belles fêtes.
Et il me semble même que le soleil est en train de pointer du nez juste pour l'occasion. Vous n'aviez que peu de temps pour organiser cet Imérial. Vous avez évidemment été soutenu par le reste du comité. Est-ce que la fête répond à vos attentes ?
Oui, alors c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé. Je remercie encore tous les membres du comité. On est 11 à travailler pour cette fête. Je remercie aussi le conseil municipal, le conseil de ville, ainsi que toutes les personnes qui nous ont aidés pour cette manifestation. Que dire de plus ? Je suis enthousiaste, il fait beau, j'ai hâte que ça commence et puis que les enfants puissent faire leur cortège. Ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas pu le faire, donc voilà.
Globalement, c'est une bonne expérience pour vous ?
Alors, c'est une bonne expérience, stressante. Je pense que je serai content dimanche quand tout se sera bien passé. Mais dans l'ensemble, depuis ce matin, tout se passe bien, les verres, les installations des stands, la sécurité. Dans l'ensemble, on est bien.
Alors, vous résidez à Sonvilliers, hein, tout comme l'ancien président, Christian Hugues d'ailleurs. L'Imérial, ça se passe à Saint-Imier, mais c'est organisé par Sonvilliers.
Non, alors la fête, c'est Saint-Imier. Moi, j'ai vécu pendant 16 ans à Saint-Imier. On a déménagé avec ma famille à Sonvilliers parce qu'on a trouvé une maison. Mais quand j'ai intégré le comité d'Imérial, j'étais un Imérien. Et puis, ça fait 18 ans que maintenant je vis dans le Vallon. Donc, je me considère comme un vallonnier du Vallon de Saint-Imier.
Merci. Donc, ouais. Merci beaucoup Gaël Lardon d'avoir été en direct avec nous pour nous parler du lancement de l'Imérial. On rappelle que ça se passe dès ce soir et jusqu'à demain. Bonne soirée et fêtez bien surtout.
Merci beaucoup et puis on vous attend nombreux pour faire la fête avec nous.
Et vous retrouverez cet entretien au complet sur rjb.ch. Un petit tremblement de terre a touché les prés d'Orvin. La secousse s'est produite aux alentours de 16h30 cet après-midi dans la commune bernoise, selon un tweet du service sismologique suisse. La magnitude du séisme était d'environ 2,9 sur l'échelle de Richter. Le virus de la rage a été détecté sur une chauve-souris trouvée à Buren an der Aare, près de Bienne. Cette découverte intervient alors que la Suisse est actuellement indemne de cette maladie, tant chez les animaux domestiques que dans la faune sauvage. En 40 ans, seuls 4 cas ont été diagnostiqués dans notre pays sur des chauves-souris. Le dernier remonte à il y a 5 ans, à Neuchâtel. Le site biennois de la Haute École spécialisée bernoise bouillonnait aujourd'hui de créativité et d'ingéniosité. Les diplômés des différentes filières de bachelor ont présenté leurs travaux au public à l'occasion du Tech Day. Olivier Zano s'y est rendu cet après-midi.
Une certaine fierté, c'est ce qu'on pouvait lire ce vendredi sur les visages des nouveaux diplômés de la BFH. Les futurs spécialistes de la microtechnique et technique médicale ont eu l'occasion de plancher plusieurs semaines sur des projets très concrets dans plusieurs domaines. Parmi eux, Bastien Weber de Sonsbeau qui a voulu s'attaquer aux cimes des épicéas.
Mon travail consiste à développer un drone qui récolte des pives pour le canton de Berne qui doit faire des récoltes en haute altitude. Et ma tâche constituait en fait à développer un bras qu'on peut attacher à un drone. Puis ce bras, il devait, avec une pince, couper des pives aux arbres. L'Office des dangers naturels, ils font des récoltes manuelles et ils voulaient automatiser ce processus. C'est une tâche assez dangereuse et puis risquée. Puis un drone, on réduirait ses risques.
Changement de registre à quelques mètres de là, Yves Merlen vient de Bâle. Le jeune étudiant se concentre quant à lui sur les techniques médicales avec un dispositif capable de détecter par exemple une scoliose.
L'idée était de trouver la position et la forme de la colonne vertébrale par des images thermographiques. J'ai une caméra infrarouge, j'ai fait des images du dos d'un patient. L'idée c'était de trouver avec cette image la position de la colonne vertébrale et de montrer cette position.
Il y a des radios qui font ça déjà. Pourquoi est-ce que vous avez voulu développer autre chose?
Au moment, on fait des mesures radiographiques. Et l'idée, c'est de trouver une alternative parce que c'est dangereux les ondes. Et comme ça, on trouve une alternative et une méthode par des images thermiques.
On vous parlait de la fierté des étudiants. Le doyen de la filière microtechnique et technique médicale, Emeric Niederhauser, en avait aussi à revendre au vu de la qualité des travaux présentés. Reste que la plupart des projets n'en sont qu'au stade d'ébauche. La question se pose donc de savoir s'ils ne resteront pas au fond du tiroir.
Alors j'espère pas et je crois que j'ose dire que c'est pas le cas. Comme ce sont des projets concrets avec des entreprises, les projets sont repris par nos partenaires industriels et se continuent. Certains ils se font directement aussi embaucher pour continuer ce projet. D'autres projets qui sont à l'interne, en lien, enfin intégrés dans des plus gros projets avec des partenaires industriels, sont aussi repris là-dedans. Donc j'ose affirmer qu'il n'y a aucun projet qu'on va ranger comme ça dans un tiroir.
Pour les étudiants, c'est un chapitre qui se referme, mais pas encore le livre. La route qui les mènera au titre d'ingénieur est encore longue et parsemée de défis.
Le canton de Berne fait le point sur l'accueil des réfugiés ukrainiens. Cet après-midi, le directeur des affaires sociales et de l'intégration, Pierre-Alain Schneck, a donné des nouvelles sur le nombre d'Ukrainiens actuellement présents sur sol bernois et les capacités que peut offrir le canton pour les mois à venir. La directrice de l'instruction publique, Christine Hessler, a également tenu à faire un point sur l'intégration des jeunes Ukrainiens dans le milieu scolaire. Lydiane Guena a suivi ce point de presse et il en ressort notamment qu'au cours des 4 derniers mois, le canton de Berne a reçu autant de personnes du domaine de l'asile que durant les 4 années précédentes.
Et jusqu'à présent, 7000 personnes ont été accueillies dans le canton après s'être enregistrées au niveau fédéral. Mais ces dernières semaines, il y a eu de moins en moins d'arrivées et cela permet au canton de mieux s'organiser entre eux. Ils peuvent à présent appliquer les processus de répartition entre les différents États. Le directeur des affaires sociales et de l'intégration, Pierre-Alain Schneck, développe quelle est la place du canton de Berne dans cette stratégie d'attribution.
Comme le canton de Berne a initialement accueilli près de 20% de personnes de plus que ce qui correspond à la clé de répartition intercantonale, un rééquilibrage a désormais lieu. La clé intercantonale prévoit 12% pour le canton de Berne. Le rééquilibrage prendra encore quelques semaines, car actuellement, une centaine de personnes arrivent chaque jour en Suisse.
Le secrétariat d'État aux migrations s'attend à ce que 150 000 Ukrainiens arrivent en Suisse d'ici à la fin de l'année, en particulier cet automne, dans leur quête d'un endroit sûr et chaud pour passer l'hiver. Le canton de Berne se prépare donc à accueillir jusqu'à 20 000 personnes supplémentaires. Pour le moment, 60 logements collectifs ont été préparés, pouvant accueillir 4 000 personnes et le travail continue. Finalement, au niveau de l'intégration des jeunes Ukrainiens dans la scolarité, la directrice de l'instruction publique, Christine Hessler, a relevé que tout se passe bien avec de plus en plus d'enfants qui intègrent soit des classes spéciales, soit des ordinaires. Elle a également tenu à remercier le personnel enseignant, les directions d'établissement et les communes qui se retrouvent face à un grand défi alors qu'ils se remettent à peine de la situation particulière de pandémie.
Sur le terrain, la ville de Kiev va rouvrir ses écoles le 1er septembre. Les autorités l'ont indiqué aujourd'hui. Les établissements de la capitale ukrainienne travaillent en ligne depuis l'invasion russe le 24 février dernier. Les environs des bâtiments seront inspectés pour exclure la présence d'engins explosifs.
Et à l'écoute d'RJB, il est 18h11.
Sport.
Ne l'appelez plus championnat jurassien de triathlon. Le CJT change d'identité pour sa 28e édition. Il s'offre un nouveau nom et un nouveau logo dans le but de rajeunir l'image de l'événement. Les meilleurs triathlètes de l'arc jurassien s'affronteront dès demain dans les triathlons Jurassic Series. Explication de l'un des membres du comité d'organisation, Fabien Guindra.
On voulait dynamiser ça, on s'est un petit peu inspiré de ce qui existe ailleurs. Le mot series, il est de plus en plus utilisé dans ce qui concerne les championnats. Jurassique, eh ben voilà, on voulait que le Jura apparaisse, c'est plutôt Jura géographique. Une petite touche d'anglicisme aussi, ça pouvait être un petit peu sympa pour le côté moderne, pour toucher peut-être les jeunes. Quand on va faire des logos, bien de la communication, des choses visuelles, ça sera assez sympa à mon avis.
Et c'est vraiment ça l'idée derrière cette volonté de moderniser un peu, c'est d'attirer davantage de jeunes, de toucher un public plus jeune?
Oui, tout à fait, c'est l'idée de toucher un public plus jeune, c'est aussi l'idée de montrer une image jeune et dynamique aux partenaires. L'avenir et puis pouvoir pénériser ce genre de manifestation d'organisation, il faut être moderne, il faut être dynamique et puis ça passe par l'image en tout premier.
Fabien Guindra au micro de Mathieu Schaffner. Le coup d'envoi de ces triathlons Jurassic Series, c'est demain avec le triathlon de Val-de-Rue. 5 manches sont au programme cette année. Steve Guerda manque d'un fil la victoire lors de l'épreuve principale au CHIO d'Aix-la-Chapelle. Le cavalier jurassien n'a commis aucune faute cet après-midi sur sa monture Albe Furens Maddox lors du barrage du prix de Rhénanie du Nord-Westphalie. Il a toutefois été 68 centièmes plus lent que l'Américain McLean Ward. Le Néerlandais Jur Vrieling complète le podium de ce concours de saut d'obstacle en Allemagne. Le premier maillot jaune du Tour de France ne sera pas endossé par un Suisse. Le contre-la-montre servant de première étape se dispute en ce moment dans les rues de Copenhague. Le Belge Wout van Aert vire en tête après le passage des principaux favoris. Le cycliste de la Jumbo-Visma devance le vainqueur des deux dernières éditions de la Grande Boucle, le Slovène Tadej Pogacar de 2 secondes. L'Italien Filippo Ganna est troisième à 5 secondes. Meilleur Suisse, Stefan Küng pointe pour l'heure en 11e position. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir écouté. Je vous souhaite un agréable week-end.